Bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans l'émission Rencontre sur Radio Accor et nous sommes en partenariat avec l'association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Aujourd'hui, nous recevons Jean. Jean, bonjour.
Bonjour, Claude.
Alors, Jean, qui êtes-vous ? Dites tout ça en un mot vous-même, votre pèlerinage.
Je suis aujourd'hui à la retraite. J'ai exercé ma carrière en tant que cadre financier dans un grand groupe international français. Et j'avais prévu de longue date de partir pour Compostelle. Et j'ai marché dans ma tête pendant 11 ans et j'ai attendu que d'être à la retraite pour partir parce que je m'étais imposé trois règles. Je n'en ai respecté que deux. C'était la première de partir de chez moi, comme les pèlerins des premiers temps. Le faire en une seule traite et puis revenir par le même chemin. Je suis parti, mais je l'ai fait dans une seule traite, mais des contraintes de temps m'ont empêché de revenir sur mes pas.
Donc, vous êtes allé à Compostelle, vous avez vu Santiago, vous avez marché deux mois et demi, trois mois. Vous êtes parti de chez vous quand vous nous dites ça. Où était-ce chez vous à ce moment-là ?
Eh bien, j'étais parisien, j'habitais Paris, mais c'était presque prédestiné. J'habitais à 150 mètres de la rue Saint-Jacques. Et,
En effet, le chemin était tout tracé.
Il était tout tracé. Et j'ai à des amis, à des anciens collègues qui m'ont accompagné la première étape, je leur ai donné rendez-vous à la station de métro Saint-Jacques.
En effet, mais c'est tout à fait symbolique comme départ. On n'avait pas pensé à ça encore.
Alors, j'ai attendu 11 ans pour partir et je suis allé même chercher, et ça, c'est vraiment pas la légende, je suis allé chercher l'idée à Chicago où j'ai rencontré deux Américaines qui avaient parcouru le chemin, le même chemin que moi, d'ailleurs, de Notre-Dame par la voie de Tours en 85. Elles avaient mis 6 mois et elles ont gardé encore 10 ans après un souvenir merveilleux. Et je crois qu'elle le garde toujours, d'ailleurs.
Et ce sont elles qui vous ont donné cette idée de partir
Tout à fait. Lors d'un voyage ensemble, elles m'ont raconté leur périple et leur pèlerinage. Et en revenant à Chicago, en descendant de la voiture, je me suis dit, mais je partirai moi aussi. Mais c'était en 93 et j'ai pu partir qu'en 2004.
Oui, il fallait le temps peut-être. Et puis en même temps, le temps permet à l'affaire de se mûrir. On a le temps de voir venir les choses. Bon, parlez-nous un peu, puisque vous nous avez dit un cheminement d'une seule traite.
Hein. Oui.
Qu'avez-vous vu ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Allez.
Il m'importait de le faire dans une seule traite, d'écrire une histoire d'un seul trait. Et pour moi, j'ai bien sûr réfléchi avant de partir pour savoir quelles étaient les raisons. J'en ai pas trouvé de vrai, si ce n'est d'exprimer vraiment. Je me suis demandé si j'allais à la rencontre des pèlerins, c'est-à-dire à la rencontre de moi-même, et j'ai dit non. Et je me suis rendu compte que c'était à la rencontre des gens du bord du chemin que j'avais envie de rencontrer. Et ça m'est venu lors d'une sorte de galop d'essai entre Paris et Tours. Où je me suis un peu entraîné pour voir ce que c'était. J'étais jamais parti en marche au long cours. Et c'est là où je me suis rendu compte que les gens au bord du chemin, d'abord savaient qu'ils étaient au bord de ce pèlerinage, de ce chemin de pèlerinage, et aussi parce qu'ils attendaient le pèlerin.
Ils attendent le pèlerin, mais ils n'attendent pas le pèlerin comme les coquillards qui attendaient le pèlerin pour le détrousser.
Absolument pas. J'ai à Cloix-sur-Loire une dame qui m'a couru après pour me proposer à boire et à manger, et puis on a donc parlé, on s'est mis un peu parlé, et puis son mari est venu la retrouver, et tous les deux d'un air gourmand, ils m'ont dit mais vous savez, les pèlerins, nous les surveillons, moi je les surveille de la fenêtre, et pourquoi? Simplement parce que nous adorerions aller à Santiago, et nous ne pouvons pas à cause de notre arthrose, et vous les pèlerins, vous y allez pour nous.
Oui, c'est un transfert de pèlerinage finalement.
Oui, mais c'est, vous savez, au Moyen-Âge, il y avait des gens qui étaient payés pour faire le pèlerinage à la place de quelqu'un qui avait été soit condamné, soit qui voulait partir, et je crois qu'on reproduit l'histoire.
Oui, on la reproduit. Alors, des rencontres du bord du chemin, vous nous parlez de ça, les rencontres du bord du chemin, donc ces gens qui vous ont apostrophé en vous disant « vous y allez pour nous », qui vous ont offert de l'eau. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, un interview à ce sujet, une dame qui m'expliquait que l'eau était une source de rapprochement, vous nous le confirmez, et d'autres rencontres au bord de ce chemin.
Alors, une différence, tout de même, je séparerai les rencontres en France et les rencontres en Espagne. Moi, on m'avait toujours fait remarquer que la France et les Français étaient xénophobes, qu'ils étaient égoïstes, qu'ils étaient refermés sur eux-mêmes, et qui fermaient à première alerte, qui fermaient leurs volets, qui oblitéraient la rue et ce qui se passait derrière leurs murs, à l'extérieur de leurs murs. En fin de compte, je n'ai rencontré pratiquement qu'une France ouverte, une France chaleureuse, une France gentille, une France généreuse.
Vous avez des exemples en tête, des exemples précis des souvenirs précis.
C'est ce couple à Cloix dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un cycliste qui faisait un tour dans un circuit dans sa région, et que j'ai recroisé plusieurs fois, et puis au bout de la troisième fois il est descendu et on a commencé à converser et à parler, et il était intéressé par le chemin. C'est l'arrivée dans un bistrot à l'heure du déjeuner et avec des ouvriers qui prenaient l'apéritif avant de...
Et qui ne s'attendaient pas à avoir un pèlerin, ou qui s'attendaient à avoir un pèlerin?
Peut-être, ou peut-être que si, mais qu'ils étaient toujours contents dans ce qu'ils envoyaient un. C'est une dame qui était en train de biner son jardin et qui, me voyant passer, me propose à boire. C'est à Saint-Palais, dans un bistrot où je demandais un sandwich et un café, toute la famille du petit enfant à l'arrière-grand-mère qui sont retrouvés, qui sont venus me saluer. C'est aussi un ange gardien qui par deux fois est venu me relancer, la première fois pour...
Alors là, un ange gardien, oui, il faut nous en parler parce qu'on en a tous besoin.
Et c'était dans les Landes. Il m'a approché en voiture une première fois pour me proposer un hébergement. Et j'avais déjà réservé. Il est parti. Il est revenu en disant, mais quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a reproché de ne pas vous avoir invité à déjeuner. Et donc, ils m'ont invité à déjeuner. Et ça a été très, très chaleureux. Et en plus, c'était des gens très cultivés.
Alors pourquoi ange gardien? Parce que pour l'instant, il vous a nourri, l'ange.
Et il m'a nourri, mais justement, justement, à la fin du repas, je me suis aperçu que j'avais perdu et laissé tomber en route mon crédentiel, qui n'était pas très important en France, mais qu'il était très important et utile en oui. Espagne. Et il m'a permis de le retrouver en me reconduisant sur oui. la route.
Jean, vous pouvez nous dire en un mot ce qu'est un crédentiel pour nos auditeurs?
Alors, un crédentiel, c'est à la fois un passeport qui est délivré soit par l'association dont vous faites partie, l'association Jacquaire, soit le diocèse ou la paroisse, et que vous faites tamponner à chacune de vos étapes, qui vous permet en France, donc qui est une preuve de passage et de voyage, qui permet en Espagne d'être logé à prix très, très raisonnable dans les auberges, les refuges, les albergués, et puis à l'arrivée d'être présenté au bureau des pèlerins pour obtenir la Compostela, qui est une sorte de diplôme rédigé en latin d'ailleurs, qui atteste que vous avez fait le pèlerinage.
Donc vous êtes venu vous incliner sur le tombeau de Saint-Jacques.
Tout à fait, ouais. Mais bon, ça c'est... je l'ai fait, mais dans un esprit de... dans une émotion extraordinaire, parce que... Ouais.
Alors, revenons à votre crédentiel, maintenant qu'on sait ce que c'est, ce crédentiel que vous avez perdu, que vous aviez perdu, parce qu'il me semble que l'ange est intervenu.
Oui, c'est ça, j'ai retrouvé.
Et vous l'avez retrouvé chez lui?
Non, je ne l'ai pas retrouvé chez lui. Il m'a permis avec sa voiture de refaire une partie du chemin que j'avais parcouru le matin.
Ouais.
Et au moment où nous désespérions de le retrouver, au moment où il faisait demi-tour avec sa voiture, j'ai aperçu un petit carré clair sur le bord de la route et tout mouillé, parce qu'en plus il pleuvait, et c'était mon crédentiel. En plus, c'est vraiment, il m'a presque, ce monsieur m'a presque montré du bout du doigt ce document.
Eh bien Jean, tout ça c'était en France, vous nous avez dit en France, et en Espagne, une différence entre la France,
oui,
et l'Espagne pour les gens
différence.
Qui nous attendent, oui.
Une différence, les gens que l'on rencontre, n'importe lesquels, bon, ont toujours le réflexe de vous souhaiter un bon voyage, et c'est l'expression habituelle, buen camino. Bon, ça, vous croisez quelqu'un sur la route, sur le chemin, n'importe où, à l'entrée ou à la sortie d'un village, buen camino.
Mais buen camino, oui, buen camino.
Buen camino, bon chemin. Mais c'est une remarque un peu froide, un peu automatique. Et les gens, moi, j'ai un peu perçu l'impression qu'il nous disait, bon, on vous a fait votre chemin, parce qu'il est, alors là, en revanche, c'est une institution en Espagne et il est magnifiquement balisé et on peut pratiquement jamais se perdre, mais on vous a fait votre chemin, bon, ben maintenant chacun de son côté. Et alors bon, on est plus loin, on rencontre moins de gens. En revanche, moi j'ai eu une rencontre extraordinaire, c'était à
Mais il y en a quand même au moins une.
Oui, une. Bon, tout à coup, le nom de l'endroit m'échappe, mais
qu'est-ce qui vous est arrivé là? Un truc particulier?
À l'arrivée de... Moi, je suis toujours je marche lentement, donc j'arrive en fin de journée souvent, et je vois un prêtre en soutane, et ça, c'est tout de même en 2004, c'était tout de même à noter, et il était en train de lire son bréviaire, et il me... Et puis, il était devant un mur, un grand, grand mur, de plus de 10 mètres de long, en blanc, et sur lequel était inscrit en grandes lettres rouges un poème. Alors je me tourne vers le mur et puis je commence à lire, et alors je sens mon coude qui rectifie ma position pour être bien en face le mur, et le prêtre commence à me déclamer Le poème.
Et... En espagnol.
Oui, oui, en espagnol, mais et avec les intonations. Et lorsqu'il a eu terminé, je lui ai dit, mais père, c'est extraordinaire ce poème. Et j'aimerais tellement en garder une trace. Comment je peux faire pour... Je vais pas défaire, chercher un stylo, un papier et tout ça. Savez-vous, je pourrais en obtenir une copie. Et il me dit, mais finalement... j'en suis l'auteur, alors tu viens chez moi et je vais t'en donner une copie. Et puis il m'a accompagné en ville, donc c'était là où je faisais étape, je m'arrêtais. Il m'a chez lui et il a sorti une copie et il me l'a même dédicacée. Et ça, c'est.
Et vous avez gardé à dîner?
Il ne m'a pas gardé à dîner, mais il m'a emmené à l'hôtel, là où j'avais réservé, parce qu'il n'y avait pas d'albergué là, et que bon, j'avais réservé dans un petit hôtel.
Ben, en effet. Mais vous disiez, la France, on a l'impression que dans ce que vous nous avez dit, qu'en Espagne, du fait que c'est une institution, en effet, Saint-Jacques, patron de l'Espagne, Saint-Jacques, pèlerinage en Espagne, on a l'impression dans ce que vous avez dit que les Espagnols était un peu en arrière du chemin. Le chemin a été fait, les installations ont été faites. Pèlerins marchaient et allaient vers l'ouest. Nous restons sur place et nous avons tellement l'habitude de vous voir.
J'ai l'impression qu'ils sont saturés, ce qui n'est pas le cas sur la voie de Tours que moi j'ai emprunté. Et je pense que c'est ça. En revanche, quand vous discutez avec les commerçants, avec les petits hôteliers ou les chambres d'hôtes, ils vous diront, mais finalement, s'il n'y avait pas le chemin, notre village serait mort et nous aurions dû quitter notre pays. Alors je crois que les gens là sont un peu saturés de tous ces pèlerins et je pense que c'est ça surtout, c'est pas
oui. Nous allons continuer cette émission. Chers amis qui nous prenez en route et qui écoutez Radio Accor, vous savez que nous sommes donc dans l'émission Rencontre, en partenariat avec l'association des Amis de Saint-Jacques en Vienne. Hein, et aujourd'hui, nous recevons Jean qui nous parle de son pèlerinage et des rencontres qu'il a pu y faire et de ce que ça lui a apporté dans tous les sens du terme. Eh bien Jean, nous prenons la suite, nous continuons cette conversation. Après toutes ces rencontres, il y a aussi quel sentiment vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti avec ces gens, le chemin, des liaisons avec les autres, plus facile.
Certainement, oui, effectivement, peut-être un contact facile, et ça, j'en ai été, c'est une heureuse découverte. Je crois d'ailleurs que cette impression du chemin, je l'ai conservée depuis, c'est-à-dire que je me suis presque institué une règle de vie que je résumerai en disant que je vais dans la vie les bras tendus, les paumes ouvertes vers les autres et vers les bonnes surprises de la vie.
Oui, donc une impression tout de suite positive. À propos de positif ou de négatif, est-ce que vous avez eu au bord du chemin des rencontres qui étaient négatives, des gens qui ne vous ont pas, bon, en dehors de l'Espagne, dont vous avez dit que du fait peut-être que c'était une institution extrêmement peuplée, mais ailleurs, est-ce que vous avez eu des rencontres négatives, quelqu'un qui vous a apostrophé en vous disant...
Bon, je pense que dans ma tête, j'ai voulu, je les ai oubliés. Bon, il y en a une où effectivement, j'étais un peu agressé verbalement, poliment, mais sans détour, avec un monsieur qui m'a dit, mais finalement, vous faites ce pèlerinage, mais vous feriez mieux d'aller vous occuper des vieux dans les hospices.
Oui, on comprend tout à fait ça, mais mais c'est à chacun sa vocation.
Tout à fait. Et puis en plus, il était mal tombé parce que j'étais bénévole à l'association les petits frères des pauvres et j'allais accompagner et rencontrer les gens dans les hospices. Et...
Donc il tombait mal. La rencontre était mal fichue et tombait mal et mal à propos.
Oui, en plus, bon, ouais. je faisais les deux et le pèlerinage et l'accompagnement des personnes âgées.
Et dans vos liaisons, bon, vous m'avez parlé de la rencontre, des rencontres au bord du chemin, de ces gens que vous avez vus, qui vous ont encouragé, qui vous ont aidé. Et avec l'extérieur, loin, avez-vous continué?
Oui. Alors, je suis parti bardé d'électronique de toutes sortes, que j'ai tout renvoyé à Mirambeau, mais je n'ai gardé que mon téléphone portable et ça, j'ai été en constante liaison avec ce que mes amis appelaient le camp de base, c'est-à-dire ceux qui étaient restés à Paris. Et dès que il y avait quelque chose d'un peu exceptionnel, un peu amusant à raconter, j'appelais quelqu'un. Eux-mêmes me parlaient beaucoup et probablement, étant dans ce voyage à la fois intérieur et physique, ils me sentaient revêtu d'une sorte de sagesse ou de connaissances, de savoir ésotérique qui les amenait à se confier. Je me souviens d'un plusieurs kilomètres à l'entrée de Dax où un de mes très bons amis me parlait de lui, de sa vie, de ses problèmes de couple et tout ça, et moi de lui donner des conseils. Je ne sais pas s'il les a suivis, mais bon.
Alors que vous étiez en train de marcher et lui était installé dans son fauteuil quelque
tout
part.
Tout à fait. Tout à fait, mais il y a aussi une
mère. Il ne vous avait jamais abordé, il ne vous avait jamais parlé de ses problèmes avant. C'est uniquement le fait que vous étiez pèlerin en train de pèleriner.
Oui, probablement c'était... mais c'est vrai qu'on est dans un état particulier. Moi, je me souviens, je me suis dit, mais finalement, jamais dans ma vie, je me suis senti plus à ma place que sur ce chemin au moment où j'y étais. Et ça aussi, c'est un souvenir très, très présent, très frappant que je garde. C'était de me sentir exactement où je devais être. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je fiche là? Et là, non, c'était le contraire. Je devais être là et j'étais là où je devais être.
On ne parlera pas de prédestination, mais on dira que vous étiez tout à fait bien là où vous étiez, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que l'ensemble des ondes... l'ensemble magnétique était autour de vous. Je pense que c'est tout à fait particulier des pèlerins qui font comme vous le pèlerinage d'une traite. Ils ont le temps de se mettre en condition et de se mettre en situation.
Au bout de quelques jours, on appartient au chemin. Et je disais aussi, mais ce chemin est magnétisé parce qu'on met son pied dans les pas de millions de pèlerins qui vous ont précédé. Et la terre est imprégnée de tous ces passages.
Oui, et finalement, on épouse leur cause, même si la cause n'était pas toujours très glorieuse. On épouse la cause de tous ceux qui sont passés avant nous.
Ça, j'en suis persuadé.
Oui.
Mais...
Et l'arrivée à Compostelle, Santiago, donc pour vous, ça a été un aboutissement, bien sûr.
Ça a été, bon, je veux dire, même en ce moment, j'en parle, bon, je revis le moment et c'est encore cette émotion. Alors, depuis le franchissement des Pyrénées, chaque fois que je pense, là, je commençais à me dire, bon, ben, je vais y arriver. Chaque fois que je pensais à l'arrivée, j'avais une sorte de montée d'énergie, j'avais des larmes d'émotion qui venaient. Et je me disais, ben, tant mieux, comme ça, à l'arrivée à Santiago, j'arriverai les yeux secs. Eh bien, À Santiago, au pied de la cathédrale, j'ai été une demi-heure sans pouvoir pratiquement parler. Alors, entre deux sanglots, entre deux hoquetements, j'ai appelé un de mes amis pour leur dire que j'étais arrivé, mais je disais aussi, mais bon, je raccroche parce que je peux pas parler tellement mon émotion est grande. Et
c'est tout à fait ce que disent les enfants, c'est magique.
Oui, c'est tout à fait. Mais c'est aussi. Alors, ce qui est terrible, parce qu'il y a aussi un côté terrible, c'est que le rêve est réalisé et qu'il disparaît immédiatement et qu'on est tout à coup orphelin. Et ça aussi, en revanche, c'est très difficile à vivre. Il y a l'émotion, mais il y a aussi le deuil à faire.
Eh bien, Jean, on va vous remercier de ce témoignage. Témoignage plein de délicatesse, plein de sensibilité. Hein. Vous nous avez fait vivre quelques moments forts de votre vie, bien sûr. Et chers amis, la semaine prochaine, bien sûr, nous nous retrouvons, comme vous le savez, avec un nouveau témoin qui nous parlera lui aussi de ce chemin mythique, de ce qu'il y a ressenti. Et peut-être que cela vous donnera à tous envie de partir aussi vers l'ouest sur le chemin des étoiles.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons.